Sermon de M. Victor Kubik, intitulé « Avoir une vision est essentiel ».
Welcome to the virtual General Conference of Elders weekend.
Bienvenue à la conférence générale des anciens virtuelle. Certains qui ont pu venir, qui ne sont pas loin, et je vais pouvoir leur parler après l'Assemblée. Bienvenue à l'Église unie de Dieu en ligne. Nous avons les congrégations et d'autres endroits dans le monde qui sont connectés aujourd'hui en ligne avec la conférence. L'année dernière, nous avions prévu d'avoir, c'était notre 25e anniversaire en tant que l'Église de Dieu unie, et nous avions prévu un grand événement pour célébrer ces 25 ans, et nous nous sommes retrouvés dans une chambre, dans une pièce, une grande salle vide, où nous avons simplement donné un sermon devant personne, en fait, puisque nous ne pouvions pas nous réunir. Mais nous sommes bénis aujourd'hui de pouvoir avoir une audience un peu plus large dans nos discussions et nos conférences. Et que notre ministère autour du monde puisse se connecter demain également pour la conférence. Lorsque nous avons commencé en tant qu'Église, nous sommes réunis pour savoir comment est-ce que nous allions accomplir l'œuvre de Dieu. Nous avions besoin d'avoir un plan. Nous avions besoin de décider ce qui devrait être fait en priorité. C'était une tâche énorme parce que nous n'avions jamais vraiment fait ça comme ça auparavant. Et on ne savait pas par où commencer. Les premières réunions pour planifier le plan stratégique étaient chez nous, dans notre salon, assis autour d'un tripode qui avait du papier où on pouvait écrire et sur un grand tableau ce qu'on pouvait faire pour repartir l'œuvre de Dieu. Nous n'avions rien. On n'avait pas de publication. On avait un ministère qui avait le désir de servir. Nous n'avions pas encore d'argent, mais nous savions que nous devions mettre ces choses en place. C'était notre travail, du bureau de directeur de l'Église de Dieu unie. Nous avons développé un plan stratégique et cela est devenu ce que chaque année nous mettons à jour et améliorons un petit peu pour s'assurer que ça reste pertinent au temps dans lequel nous vivons. Et nous parlons de notre vision. Chaque année, nous retravaillons ce plan. Ma lettre dans ce plan stratégique expliquait le processus que nous suivons pour développer cette vision. Parfois, dans nos rendez-vous, on utilise des mots très communs comme notre mission. Et très vite, nous avons réalisé que nous avons besoin de poser la question vers quoi nous dirigeons-nous et pourquoi est-ce que nous faisons ce que nous faisons. Et nous avions besoin de l'écrire. Et la réponse à cette question est devenue notre vision. Notre affirmation de vision. Et cette année, comme tous les ans, c'est en haut du plan stratégique. C'est cela qui guide tout ce qui se trouve dans le plan stratégique. Voici notre vision telle qu'elle a été énoncée et approuvée. Une Église dirigée par l'Esprit de Dieu, bien coordonnée et formant un solide assemblage, tirant son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, s'édifiant elle-même dans l'amour pour accomplir le dessein de Dieu envers l'humanité qui est d'amener de nombreux enfants à la gloire. C'est cela, notre vision, amener de nombreux enfants à la gloire, d'amener nous-mêmes à la gloire, mais beaucoup d'autres également. C'est la prémisse de l'Église, c'est la vision de l'Église. C'est cela que nous devons accomplir. C'est là où nous voulons nous trouver. Ce qui est important à notre vie de tous les jours et à notre survie également. Cette vision est essentielle à notre survie. Historiquement, pour le peuple de Dieu, la vision lui a fourni ses rêves et ses espoirs. Si vous n'avez pas de vision, quel est le point de ce que nous faisons? Ceux qui perdent de vue cette vision aussi perdent l'espoir. Ceux de l'Église du premier siècle avaient une vision claire, ont pu endurer des persécutions, des battements, l'emprisonnement et le martyr. Pourquoi passer à travers cela, à moins qu'il y ait un but, à moins qu'il y ait une vision, quelque chose de très réel, à quoi s'accrocher? Et est-ce que nous serons prêts pour ce qui arrive, pour ce qui nous attend, ce qui vient devant nous? Quelle est votre compréhension de cette vision? Est-ce qu'elle est claire pour vous? Dans Proverbe 29, verset 18, la version King James, il dit, la décrit très bien. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. En anglais, ce passage bien connu est traduit, se traduirait en français par « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt ». Il y a plusieurs façons de traduire cela, mais c'est la version qui rend les choses claires. Il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ne pas avoir de vision est le chemin vers l'échec. C'est le mot qui veut dire, il y a un seul mot en hébreu, c'est le mot vision, qui a été ici traduit par révélation, mais qui veut dire la vue en quelque sorte. Mais la capacité mentale de visionner quelque chose. L'imagination aussi. L'hébreu est vu, vision. Celui qui ne voit pas, celui qui n'a pas de vision, périra. Dans la Bible ukrainienne, c'est Dijenia, c'est le mot pour vidéo. Celui qui n'a pas de vidéo périra, parce que c'est cela que Dieu fait. Il nous montre une vidéo, il nous montre le futur, pas juste une image, mais toute une vidéo du futur. Pour nous, la vision, donc, est là où commença la planification de notre stratégie pour l'Église unie de Dieu. Cela nous a inclus demander l'opinion des autres, du personnel, des programmes, des activités. Et une productivité qui en ressort. Abraham Lincoln a dit quelque chose d'important concernant le temps. Il a dit, si nous savions tout d'abord où nous sommes et où nous allons, nous pourrions mieux juger ce que nous faisons et comment nous le faisons. Nous avions donc un plan robuste pour aborder cette 26e année de l'Église unie de Dieu. C'est là où nous devons commencer. Une vision n'est pas quelque chose comme une platitude. C'est pas quelque chose que vous mettez sur un t-shirt pour aller marcher. Ce n'est pas un petit mot sans conséquence. Ce n'est pas quelque chose que vous mettez sur votre tasse de café. Ce n'est pas un slogan ou une généralité sans importance. c'est la raison pour tout ce que nous faisons. Pour développer notre plan stratégique, en 2008, nous avons demandé les conseils d'une compagnie qui se spécialise à aider les gens à développer leur plan stratégique. Et leur directeur est venu et a présenté leur rapport à la GCE à la conférence en 2009. Et c'est le plan que nous avons plus ou moins suivi depuis cette époque-là. La brochure s'appelle « Le plan stratégique, le plan d'opération et le budget ». Et voici cette brochure ici. C'est une formule que nous avons utilisée qui a d'un côté au milieu un côté pour tout ce qui est stratégique. Nous l'avons modifié au cours des quelques années dernières. Le Conseil des anciens est responsable de formuler la stratégie. Et de l'autre côté, nous avions le plan des opérations, qui était le travail de l'administration, c'est-à-dire du président de l'Église. Ils travaillent ensemble, l'administration et le président, pour faire marcher le plan stratégique, et le président s'attache à administrer ce qui a été décidé par le Conseil des anciens. J'aimerais vous montrer un petit peu ce que Jésus-Christ a dit sur la vision. Jésus-Christ a dit qu'il était le plus grand organisateur et le plus grand enseignant en choisissant 12 Galiléens, des hommes d'occupations diverses, des charpentiers, des pêcheurs et d'autres que nous ne sommes pas sûrs. Il a pris une équipe d'hommes désorganisés de Galilée et il les a transformés en une entreprise formidable qui allait prêcher l'évangile à travers le monde. Bien entendu, le Saint-Esprit était là, mais il a entraîné ces hommes. Il leur a servi de mentor. Il les a choisis, il les a entraînés. Et il les a enseignés, ses disciples. Il leur a enseigné à être courageux et forts. Il leur a appris la maîtrise de soi. Il les a équipés à accomplir la grande mission alors qu'ils allaient proliférer et prêcher la mission à travers le monde et éventuellement à des millions de gens. J'aimerais vous montrer quelques-uns de ces exercices que le Christ avait avec ses disciples, parce que celui-ci en particulier démontre son enseignement à travers la vision, à travers une vision, et nous pouvons apprendre de ce témoignage dans la Bible. Dans Matthieu, reportez-vous s'il vous plaît à Matthieu 17 et verset 1. Matthieu 17 et verset 1. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, au verset 5, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuit ces paroles, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Il faut admettre que ça a dû être vraiment un spectacle pour ces hommes. Tout d'abord, Jésus-Christ s'est montré dans sa gloire, comme nous l'avons vu dans notre vision. Leur a montré ce que cette gloire était, son visage qui brillait comme le soleil. Il était immortel, non plus un être humain. Et il a apporté avec lui Élie et Moïse, qui représentaient la loi et les prophètes. Il leur a donné une vision et il leur a révélé le royaume de Dieu. Ils entendirent la voix qui représentait la voix du Père. C'était peut-être un ange, puisque personne n'a entendu le Père. Il a dit, c'est mon fils en qui je suis, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Peut-être que c'était un ange, ou... Et les trois disciples ont été très impressionnés par cette vision. Cela leur a laissé un effet incroyable. Le Christ leur a dit, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Donc ils ont vu beaucoup de choses et on leur a dit de ne pas en parler jusqu'après la résurrection. Ils en ont parlé après la résurrection. C'était une impression inoubliable pour eux. Et il y avait trois témoins, pas juste un ou deux. Il y en avait trois qui ont corroboré cette histoire et qui ont dit aux autres disciples que Jésus-Christ a utilisé une vision, une vidéo, si vous voulez, du futur, afin de qu'ils puissent avoir cette vidéo, cette vision, vraiment ancrée dans leur esprit. Ils allaient plus tard être martyrisés. Ils savaient qu'il y avait ce risque. Et ils savaient qu'il y avait après, ce qui arriverait après leur martyre. Ils n'avaient pas peur de mourir. Ils n'avaient pas peur d'être battus. Ils n'avaient pas peur de passer du temps en prison parce qu'ils avaient vu la vision, ils avaient vu la vidéo, ils avaient vu Jésus-Christ dans sa vie, dans sa gloire. Ils ont entendu Dieu le Père parler. Un autre exemple d'une vision est dans 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 1. C'est l'histoire de l'apôtre Paul, qui est intitulée, dans ma Bible, « La vision du paradis ». C'est juste un sous-titre dans ma Bible. 2 Corinthiens 12, verset 1. « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi, jusqu'au troisième siècle, si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou dans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas. Il parle de lui-même. Il est humble et il ne voulait pas se vanter de cette expérience. Donc il écrit cela avec l'humanité. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car ça serait une bonne histoire à raconter, n'est-ce pas? Car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et ensuite au verset 7, « Et pour que je ne sois pas glorifié, enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair. » Le Christ l'a emmené au troisième siècle, au même endroit où Jésus est allé après sa résurrection. L'apôtre Paul a eu cette expérience également. Mais il répète donc, une écharde dans la chair m'a été donnée, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Dieu avait un plan et une vision pour Paul et il souhaitait que Paul reste humble. Mais il lui a montré la vision du futur, comment l'histoire finissait. Nous ne savons pas ce qu'était cette écharde dans la chair. Trois fois, au verset 8, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Quelque chose de physique, sans doute, qui l'irritait, qui l'ennuyait au niveau physique. Et Dieu ne l'a pas enlevé. C'était dans le but, apparemment, de le garder, de l'empêcher de l'enorgueillir. Il m'a dit, ma grâce suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ reste sur moi. C'est pourquoi, au verset 10, je me plais dans les faiblesses, dans les ouvrages, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et Paul, certainement, avait beaucoup d'occasions de prouver cela. Vous pouvez voir comment était son attitude lorsqu'il était en prison dans Philippiens. Je pense que c'est une histoire vraiment formidable de voir comment est-ce qu'il a parlé avec courage. Dans Philippiens chapitre 1, verset 12. Mais je voudrais que vous sachiez, chapitre 1, verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. Nous ne savons pas quel genre d'orateur il était. Certains ont même dit que son style d'orateur n'était pas très bon. C'était une personne, Paul était, qui n'était pas le plus macho, disons. Il n'avait pas nécessairement beaucoup de charisme. Mais les choses qui lui sont arrivées ont contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. C'était la prison qui était proche de César. Et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte la parole. Les choses qui lui sont arrivées ont aidé à la prédication d'Évangile. Ses amis, ses collègues dans le ministère qui prêchaient l'Évangile avec lui pouvaient presser avec courage lorsqu'ils voyaient Paul dans cette attitude pour l'encourager. Certains, en effet, ont prêché avec envie et dans une mauvaise attitude. Une chose avec l'Église, concernant l'Église du premier siècle, c'est qu'elle avait énormément de pression de l'extérieur, de persécution, mais elle avait aussi des problèmes à l'intérieur. Certains prêchaient avec une bonne attitude et d'autres prêchaient pas sincèrement, mais avec une certaine ambition. Par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes, il dit ici au verset 15. Ceux qui agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures. Et avec l'intention de me susciter quelque affliction dans mes liens. Qu'importe, dit-il, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, au verset 19, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et je voudrais continuer de lire le verset 20, parce que c'est le verset le plus important selon moi. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie, et mourir m'est un gain. pourquoi est-ce que mourir était un gain? Parce qu'il a vu, il avait la vision de ce qu'il y avait au trône de Dieu, au troisième ciel. Il a vu la vision du royaume de Dieu. Dieu le Père lui a donné un tour, en quelque sorte. Et il a dit, si je meurs, c'est là où je vais aller, ce sera formidable. La mort était un gain pour lui. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Il hésitait entre les deux. Il voulait, je suis pressé des deux côtés, je le désire de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demande dans la chair, que je demeure dans la chair. C'est cette vision du troisième siècle qui l'encourageait dans tout ce qu'il faisait. Et je suis persuadée, et je sais que je demeurerai, que je resterai avec vous tous pour votre avancement et pour votre joie dans la foi. Il allait subir une persécution horrible, être battu, être emprisonné, afin que par mon retour auprès de vous, vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus-Christ. Il y a un troisième exemple que j'aimerais partager avec vous, qui se trouve dans Hébreux chapitre 11, où se trouve une parade de héros de la foi, en commençant avec Abel, Enoch, Noah, etc. Dans Hébreux 11 et verset 13, il est question des fidèles. Qu'est-ce qui les a rendus fidèles? Qu'est-ce qui les a stimulé leur foi? Qu'est-ce qui a généré leur foi? Au verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont morts, tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Ils ne les ont pas reçues, mais ils en avaient la vision. Ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils savaient qui ils étaient et ils ont compris là où ils allaient. Ils avaient une vision claire. Au verset 14, pour ceux qui parlent ainsi, montrent qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, au verset 16, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est par la foi qu'ils ont pu, et par la vision, qu'ils ont pu traverser toutes les épreuves de leur vie. Au verset 32, il a dit, il finit le chapitre. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Japhé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gorge des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Est-ce que aucun de vous a traversé des épreuves comme ça? Ou est-ce que notre plus grande épreuve a été de porter un masque à l'assemblée? Nous n'avons pas vécu rien de ce que les apôtres ont vécu. D'autres ont été torturés. Ils subirent des moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout. Mais ils avaient une vision claire de la fin. Ils étaient persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pas dans leur vie, et nous non plus peut-être nous n'aurons pas hérité cette promesse dans notre vie. Dieu ayant en vue quelque chose, maintenant cela, c'est ça, s'applique à nous, pour nous. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la persécution. Nous avons la même vision qui nous a été donnée. Ma question est, est-ce que nous l'avons vraiment ancrée dans notre esprit? Est-ce que nous voyons ce que les disciples ont vu lors de la transfiguration? Parce que cette révélation nous a été donnée à nous aussi par cette histoire, pas juste à eux. Est-ce que nous voyons le témoignage de l'apôtre Paul qui a été emmené au troisième ciel et qui a vu des choses qu'il ne pouvait pas possiblement décrire? Quel que soit qu'il a vu, c'était fantastique. J'ai presque l'impression que nous avons presque une petite image du troisième siècle avec ce que les photos du Hubble télescope ont été capables de voir, la grandeur de l'univers, et comprendre qu'il y a tellement plus dans l'univers et que Dieu a préparé quelque chose vraiment formidable pour nous, alors qu'il apporte, qu'il amène de nombreux enfants à la gloire. Dans Hébreux 11, ils ont vu les promesses, ils les ont vues de loin. Ma question est, est-ce que vous les avez vues de loin? Est-ce qu'elles sont claires pour vous? Ou bien lorsque certains d'entre nous ont devenu plus ou moins aveugles, est-ce que nous avons perdu cette vision? Ou bien est-ce que cette vision n'est plus très claire pour nous? Nous avons une autre histoire avec lorsque les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, Dieu leur a fourni une vision de la terre promise. Il l'a rendue très claire pour eux. Il a même envoyé une expédition pour aller dans la terre promise. Et il a pourvu à leurs besoins pendant 40 ans. Mais le peuple est devenu découragé parce qu'il ne pouvait pas le voir. Ma question est, est-ce que nous pouvons voir ce que Dieu essaye de nous dire? Est-ce que nous avons cette vision? L'Église a la vision d'amener de nombreux enfants à la gloire. Est-ce que cette vision est réelle, ce qu'il fait pour nous dans notre vie? Est-ce que cela est clair pour nous? C'est la raison même de notre existence. Ou bien est-ce que nous sommes comme les enfants d'Israël qui murmurent et qui se plaignent tout le temps? Certains n'ont pas pu aller dans la terre promise à cause de leur attitude, de leur manque de vision. Est-ce que nous pouvons si rapidement perdre la vision et le but pour lequel nous faisons partie de l'Église de Dieu? Est-ce que notre vision est suffisamment vivide, claire, pour surmonter les tentations des pensées de notre cœur charnel, alors que nous travaillons ensemble pour atteindre le royaume de Dieu? Dieu veut que nous régénérions notre vision chaque jour. Est-ce que vous régénérez votre vision chaque jour? La prière modèle que Jésus-Christ a donnée, ils lui ont dit, comment est-ce que nous devrions prier? Ses disciples lui ont dit. Il leur a dit, enseigne-nous comment prier. C'était l'une des choses qu'ils ont demandé au Christ. Et le Christ a répondu, il y a 7 demandes dans la prière modèle. Et la première est, notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié. Avant que nous pensions ou demandions quoi que ce soit, notre esprit doit être plein de gratitude envers le Père. Et nous devrions penser à cela et laisser cette vision circuler dans notre esprit chaque jour, notre reconnaissance envers Dieu le Père, afin que nous ayons en tête la vision qu'il essaye d'accomplir. L'élément le plus important de ce plan stratégique était où nous en sommes et où en somme Dieu le Père et Jésus-Christ. Et là où comment l'histoire finissait. Et donc dans la prière modèle, la première chose que nous demandons, c'est que son nom soit sanctifié. Nous le louons. Je remercie Dieu pour le fait que je me réveille chaque matin. Et je remercie Dieu pour mes amis. Je remercie Dieu pour ma femme. Je remercie Dieu pour toutes ces choses parce que, croyez-moi, ça m'aide beaucoup à garder la vision en moi. Une autre chose que nous demandons dans la modèle prière, dans Matthieu 6, verset 10, Matthieu 6, verset 9 à 11, c'est la prière modèle. Mais la seconde chose, donc, c'est que ton règne vienne chaque jour. Cela doit être priorité. Avant que nous demandions pour du pain, pour de l'argent, pour tout ce que soit des choses qu'on demande, de la délivrance d'épreuves, on doit dire que ton règne vienne. Voici une vision pour vous. Que ton règne vienne. Pensez à ce que cela signifie et notre part dans ce royaume. La troisième demande est que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela nous indique ce que nous devrions demander et faire. Nous devrions choisir la volonté de Dieu. Presque toute la prière a rapport à la vision que les chrétiens devraient avoir. Notre travail est d'amener de nombreux fils, de nombreux enfants à la gloire. Nous devrions prier pour cela chaque jour. C'est cela qui va nous garder et nous conserver notre vision claire dans notre esprit. Parce que tous ceux qui perdent l'espoir ont arrêté de voir ça. Ils ont arrêté de comprendre comment ça fonctionne. C'est devenu pas clair pour eux. Et nous avons tellement de témoins dans la Bible, les histoires bibliques, le livre d'Hébreux, la vision qui a été donnée aux apôtres, à l'apôtre Paul, la transfiguration qui a été donnée aux disciples, et d'autres histoires qui sont dans la Bible et qui montrent la grandeur de Dieu, qui nous garde toujours notre vision en tête. La vision d'avoir vu la fin de l'histoire devrait nous motiver à changer notre vie là où ça doit changer. Les disciples ont laissé leurs travaux de comptable, de pêcheur, de quel que soit qu'ils faisaient, pour aller suivre le Christ, pour leur dire ce qui allait leur arriver. Et cette vision leur a permis de passer à travers tout le trauma qu'ils ont passé. Et nous pouvons en arriver à Paul qui dit « Je suis pressé des deux côtés entre aller voir mourir et être réuni avec le Christ après la résurrection ou continuer ici à prêcher et à faire l'œuvre. Mais je sais que le prochain moment de ma conscience après Jésus-Christ, je serai là, dans cette zone incroyable d'être salu, d'avoir reçu le salut en tant que fils de Dieu. C'est là où Paul voulait être. La même vision nous est offerte à travers la parole de Dieu. Et Dieu nous a demandé de partager cette vision avec le monde. Nos auteurs, nos ministères, ceux qui écrivent dans le magazine, ceux qui présentent cette vision à un monde troublé. Cette vision d'amener de nombreux enfants à la gloire.